Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Serge Bounic du groupe Numérique Lettres de l'Académie d'Orléans-Tours. J'ai le plaisir de vous inviter à un événement que nous avons voulu exceptionnel puisque dans le cadre des 20 ans du lycée Charles Péguy d'Orléans, vous allez écouter la 20e émission des souris et des lettres. Celle-ci est pilotée par Philippe Godiveau, accompagné aujourd'hui d'Angélique Voisin, de Karine Lanista et de Christelle Delas. À ces voix déjà bien connues s'ajouteront celles de trois nouveaux collègues à qui je souhaite la bienvenue, Yann Thibault, Léla Inouski et Olivier Delaby. Notre spécialiste Christelle, qui a décidément le don d'ubiquité, se charge également de l'enregistrement dans ce studio aimablement installé au lycée par Madame Caroline Chapuis du Canopée d'Orléans. Je tiens enfin à remercier sincèrement ma proviseure, Madame Martin, son adjointe, Madame Force, et tous les personnels du lycée Charles Péguy qui ont rendu possible cet événement. Et puis, comment ne pas penser au moment où nous entamons ce 20e enregistrement à notre regrettée Madame Pinsard, IPR de Lettres, qui en a été l'initiatrice et qui a soutenu le travail de chacun d'entre nous depuis l'origine du groupe Numérique Lettres. Cette émission lui est tout naturellement dédiée.
Les souris et les lettres.
20 émissions, cela compte. 8 ans passés à analyser les évolutions de l'usage du numérique dans l'apprentissage de la langue et de la littérature française, au collège comme au lycée. 8 ans d'émission des souris et des lettres consacrés à mesurer l'impact réel et la pertinence des outils mis en œuvre. Voici arrivé le moment de dresser un bilan, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives, propres à stimuler votre curiosité et votre créativité pédagogique. Sonnez, sonnez toujours, clairon de la pensée. Ouvrons donc cette émission avec le thème qui en sera le fil directeur, développer l'esprit critique en lettres grâce au numérique. Et commençons de la belle manière en écoutant l'édito d'Angélique.
Bonjour à toutes et à tous pour ce 20e édito de cette 20e web radio académique des souris et des lettres. Cela fait donc 20 émissions que la voix d'Adeline puis la mienne introduisent l'émission. 20, cela sonne comme l'insouciance de nos 20 ans révolus. Je ne dis pas ça pour toi, Philippe, face à moi. Cela sonne aussi comme les prémices d'une maturité acquise par l'expérience. Pour preuve, j'emprunterai ces mots à Nicolas Boileau. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. N'est-ce pas ce que nous avons fait lors de ces pérégrinations numériques, dans les démarches comme dans la méthode? Tester supports, outils, techniques, varier les mises en œuvre, les démarches, les modes de restitution. Et souvent, nous effaçons toutes ces étapes pour nous poser la question. Finalement, pourquoi le numérique? Qu'avons-nous cherché au fil de ces émissions? Eh bien, puisque l'heure d'un premier bilan a sonné, je pense que sans perdre courage, nous avons tenté de remettre sur l'ouvrage un outil numérique au service des apprentissages. Outil qui épouse la dynamique de notre pédagogie afin d'enrichir nos pratiques, mais aussi de rendre nos élèves autonomes et conscients face à l'évolution de nouveaux modes de communication. L'enjeu est avant tout celui de la communication, de l'échange, de la compréhension, de l'argumentation. Car si sur la toile les mots pour le dire arrivent aisément, il faut rester vigilant sur ce qui paraît si bien conçu, mais pourtant énoncé si peu clairement. De l'humanisme numérique promu par Madame Pinsard et évoqué dans nos précédentes émissions, au prix de l'esprit critique lancé dans l'Académie cette année, les valeurs qui animent notre groupe perdurent. En effet, cette année, pour la première fois, l'Académie d'Orléans-Tours propose à tous les élèves, du cycle 3 à la classe de terminale, de s'engager dans un projet ouvert à toute discipline et porté par Madame la rectrice, le prix de l'esprit critique. Le but semble simple. Les enjeux complexes. Lancer un défi aux élèves leur permettant d'apprendre à se méfier des préjugés, c'est-à-dire étayer leur autonomie intellectuelle et réaliser une production numérique à partir de cette démarche d'investigation. Il était question d'humanisme, c'est ainsi que ce concours épouse la démarche cartésienne. On peut ainsi lire sur la page web et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie.
Notre rubrique « Le sujet du jour » nous amène à envisager une évolution dans nos pratiques d'enseignement qui concerne les compétences d'écriture que nous travaillons avec nos élèves. Karine Lanista et Yann Thibault, qui tous deux enseignent en collège, se sont penchés sur ce thème. Ils nous invitent, en faisant le point sur les outils numériques disponibles, à découvrir les modalités d'écriture 2.0. Dites-nous tous les deux ce qui peut se cacher derrière ce type de projet.
En effet, Serge, ces pratiques d'écriture 2.0 relèvent en fait d'une réflexion didactique visant à mettre en jeu les outils numériques pour repenser la construction des compétences d'écriture chez nos élèves, dans des phases alternées visant à passer d'un acte d'écriture individuel vers un travail collaboratif, favorisant l'échange et la co-construction de ces compétences chez chacun de nos élèves.
Nous allons donc, dans cette optique, vous présenter deux directions de travail, l'une autour des tablettes que j'ai pu expérimenter et l'autre autour des pads dont Yann vous parlera.
Écrire avec une tablette ? Effectivement, Karine, cela modifie notre approche de la rédaction habituelle.
Oui, mais il faut d'emblée, je pense, abandonner l'idée de vouloir pratiquer l'écriture longue avec une tablette. Elle n'est pas destinée à cela, parce qu'écrire avec un clavier virtuel suppose un haut degré de maîtrise de l'écriture au clavier. Et même si l'on est un virtuose des touches, la dimension même de l'outil n'en facilite pas la tâche, à moins de lui adjoindre un clavier physique.
Au collège, nos élèves sont précisément en phase d'apprentissage de l'écriture numérique. Mais ils ne maîtrisent pas non plus totalement l'écriture manuscrite.
Effectivement, la tablette n'est pas là pour se substituer à l'écriture manuscrite. On pourrait plutôt envisager des activités d'écriture destinées à enrichir l'expression, comme par exemple un travail sur les expansions du nom ou des exercices de manipulation de la phrase, ou bien encore un travail sur la ponctuation. La tablette peut aussi permettre de travailler sur la morphologie du verbe et contribue ainsi à améliorer l'utilisation de la conjugaison. Un travail de réécriture d'un texte au passé pourrait rapidement faire comprendre, par comparaison, l'effet produit par l'emploi des temps, avec un simple jeu de copier-coller et de substitution des verbes autant qu'il convient. Je précise qu'ici, l'objectif n'étant pas l'orthographe, mais plutôt la maîtrise des temps, on gagnera du temps en utilisant ici le numérique. Et si en plus on peut bénéficier de la possibilité de projeter au TNI la tablette de l'élève, toute la classe peut participer au travail d'amélioration de l'expression, que ce soit au préalable avant l'exercice d'écriture proprement dit, ou en remédiation après retour à l'élève de sa copie. On l'a compris, ici la tablette constitue un gain de temps puisqu'elle n'exige pas d'aller dans une salle multimédia et qu'elle va être plus rapide qu'un travail manuscrit. Ce faisant, on peut n'y consacrer que quelques minutes sur une séance au lieu de la séance entière.
Les travaux d'études de la langue sont donc facilités par l'usage des tablettes en classe, mais leur emploi se réduit-il à cela ?
Il pourrait être intéressant aussi d'utiliser la tablette pour améliorer l'écriture numérique. Comment ? Puisque je viens de vous dire qu'il était difficile d'envisager une saisie longue au clavier virtuel. Eh bien, on peut décomposer la maîtrise de l'écriture numérique au moins en deux phases. Une première, qui est celle de la maîtrise de la saisie, et une seconde, qui serait celle du travail de mise en page. Or, sur une tablette, le travail de mise en page est beaucoup plus intuitif que sur un ordinateur. Ainsi, si l'enseignant fournit à l'élève un texte saisi au kilomètre qu'il devra remettre en page, en respectant quelques exigences comme les gras, les soulignés, les titres, cela pourrait faciliter le travail ultérieur en salle multimédia où on pourra plus facilement demander à la fois la saisie et la mise en page.
Mais je crois, Karine, que tu voulais également nous présenter un dernier aspect de l'usage des tablettes, celui de la création d'un livre numérique avec l'application Book Creator.
Oui, tout à fait, Serge. J'ai proposé deux séquences disponibles sur le site académique. L'une qui consiste à créer un livre numérique enrichi à partir des petites histoires de la mythologie. Le texte avait été saisi à l'ordinateur puis importé sur la tablette et le travail d'écriture était constitué par l'écriture de définition avec le vocabulaire de l'élève et l'apport d'éléments d'information destinés à faciliter la compréhension du texte. L'autre travail que j'ai proposé était la réalisation d'un compte-rendu de lecture de « La guerre des boutons ». Les élèves avaient assisté à la projection du film dans le cadre du collège au cinéma. En groupe, ils ont créé la première et la quatrième de couverture et ils ont proposé des morceaux choisis lus. Là, il s'agissait plus d'un travail sur l'oral que sur l'écriture. Mais dans le même esprit, on peut envisager un recueil de contes ou de poésie en associant les compétences de lecture et d'écriture, la tablette servant ici plutôt de faire valoir à l'écriture en tant qu'outil créatif.
À travers cet outil 2.0, je m'aperçois que le travail d'écriture adopte souvent une dimension de projet collectif. Qu'en penses-tu, Yann ?
Oui, mais pas seulement. L'idée est de mettre en œuvre des modalités d'écriture alternant des phases individuelles, collectives ou collaboratives. Prenons un exemple concret, je travaille avec des élèves de 3e autour de l'écriture argumentée. Mon objectif est de faire acquérir à chaque élève les compétences qui seront nécessaires pour traiter le sujet d'argumentation proposé au DNB. Il leur faut donc comprendre la nécessité, mais surtout la logique à l'œuvre dans l'élaboration d'un plan afin de structurer leur texte à venir. Il leur faut également pratiquer l'écriture du paragraphe argumenté qu'ils ont pu au préalable expérimenter dans d'autres situations ou d'autres disciplines comme en histoire-géographie, enseignement moral et civique. Enfin, il s'agit en 3e d'affiner la cohérence globale du texte écrit par une maîtrise des liens logiques qui permettront à l'élève de développer une réflexion critique pertinente jusque dans ses articulations.
D'accord Yann, mais dans le détail, comment de telles séances de travail en classe peuvent-elles s'organiser et avec quels outils numériques ?
Je me suis vite tourné vers les outils proposés par la suite Framasoft. Framindmap, par exemple, permet l'élaboration collective d'un plan sous forme de carte mentale puisque l'objectif est celui de la structuration logique que met justement en évidence visuellement cet outil numérique pour plier et déplier des nœuds logiques. Et bénéficier d'un plan que l'on peut utiliser en alternant des phases macro et des phases micro. Mais l'outil que je souhaite particulièrement vous présenter ici est le site Framapad, que je trouve très facile à prendre en main. Framapad est un pad collaboratif en ligne, donc sans installation nécessaire sur un poste ni sur le réseau de l'établissement, permettant un temps d'écriture à la fois synchrone par son affichage actualisé en temps réel et asynchrone, ouvrant ainsi le temps de classe vers un temps personnel de travail. La mise en œuvre est très simple. Il suffit de créer le pad en ligne, puis chaque participant s'y connecte par l'URL, l'adresse Internet, en choisissant éventuellement sa couleur distincte. Un historique dynamique permet de conserver la trace des étapes du travail de chacun, de la création du pad jusqu'à sa fermeture. C'est un outil non négligeable pour suivre la méthode et les productions de chacun des élèves, notamment pour travailler avec eux les étapes d'élaboration du brouillon. Le prétexte de cet outil numérique renouvelle les perspectives du travail de groupe. Chaque élève est responsable de ce qu'il écrit et doit donc s'impliquer. Un espace de chat est l'équivalent écrit des réflexions négociées en groupe. C'est le clavardage, l'équivalent au clavier du bavardage, qui permet de construire ensemble la production écrite, alors que l'espace central d'écriture est voué à recueillir les productions elles-mêmes. Framapad est un outil motivant qui inclut également par son fonctionnement des perspectives de différenciation. D'une part, d'un point de vue diagnostique, puisqu'il permet une vraie visibilité du travail de l'élève à chacune des étapes de son travail. D'autre part, parce que le suivi pédagogique de l'enseignant, à distance ou en présentiel, peut ainsi être affiné, individualisé. Le professeur intervient en effet directement dans le pad pour vérifier, guider, voire évaluer les étapes du travail. Framapad n'a pas pour vocation d'être le support d'un texte finalisé. C'est l'interface de l'écrit de travail, de la construction collaborative et d'un véritable travail de brouillon. Étape de transition, ce passage par Framapad pourra ensuite être exporté au format texte brut en .odt ou en .pdf afin de le reprendre sur un traitement de texte classique, individuellement, en groupe ou en classe entière, ou d'en finaliser la présentation pour une éventuelle diffusion. Pour aller plus loin dans cette approche d'EHPAD, je vous invite à lire l'article bien documenté du réseau Canopée de l'Académie de Besançon sur les nouvelles pratiques d'écriture collaborative, dont le lien figure dans le document d'accompagnement de cette émission.
Ces précisions techniques permettent effectivement d'y voir plus clair. Mais Yann, quel scénario de séquence prévois-tu en impliquant cet outil ?
Tout commence par une phase de recherche en groupe afin de mettre en place une réflexion collective autour de la structuration d'un plan. Puis chaque élève doit produire un écrit de travail en ligne en prenant en charge la rédaction d'un seul paragraphe correspondant uniquement à une partie délimitée du plan élaboré en commun au préalable. Cette phase individuelle aboutit à une finalisation collective qui passe par la vérification de la progression et de la cohérence des écrits produits afin d'assembler ce travail pour parvenir à un texte abouti. C'est le moment où l'on affine les rouages structurels en soignant les connecteurs logiques ou les phrases d'amorce par exemple. On peut ensuite envisager un retour éventuel à une écriture individuelle, éclairée par cette phase de construction collective autour d'un autre sujet.
Et pour conclure, Yann et Karine, quel avantage y a-t-il à passer par ces outils numériques par rapport à des séances plus traditionnelles ?
J'y vois plusieurs avantages. Un gain de temps d'abord pour mettre chaque élève véritablement au travail, tout en bénéficiant d'une recherche collective autour d'un projet commun. Framapad est également très efficace en ce qui concerne la traçabilité et le suivi du travail de chacun, permettant une réelle évaluation formative ou formatrice. Le partage instantané des données est apprécié par les élèves et me semble très pertinent pour modifier, corriger ou compléter les textes. Je note aussi qu'il y a dans ces séances de travail une prise en compte constante de son lecteur potentiel par l'élève rédacteur. Enrichir une copie, la corriger à plusieurs, améliorer son brouillon, affiner les commentaires et négocier les améliorations du texte sont des compétences qui peuvent véritablement être travaillées ici de façon précise. Évaluer la progression de l'écrit, les phases de brouillon, l'implication de chaque élève dans le travail du groupe avec l'historique dynamique, le forum ou l'attribution de couleurs pour chaque rédacteur sont aussi des indicateurs précieux pour notre travail d'enseignant.
La tablette peut de la même façon être au service de l'écriture, par exemple pour servir de brouillon. Je ne veux pas dire que l'élève rédigerait l'intégralité du brouillon de sa rédaction sur une tablette. On l'a vu, l'écriture longue me semble difficile à envisager. Il s'agirait plutôt de garder la trace d'écrit de travail en vue de l'amélioration du brouillon de la rédaction. Plus largement, le genre de pratique dont parle Yann est également facilité par l'usage des tablettes. Pour ce qui est de travailler la cohérence de l'écrit, la remise en ordre d'un texte dont les paragraphes ont été mis dans le désordre peut permettre de faire comprendre rapidement la nécessité d'organiser ses idées, que ce soit en sixième pour un respect de la chronologie des événements ou en troisième pour la compréhension de l'agencement logique des idées et la construction du devoir de réflexion.
Effectivement, on voit bien toutes les perspectives qui se jouent là, autour du brouillon chez nos élèves, mais aussi autour de la construction des compétences d'écriture. Travail facilité que vous nous avez montré, Karine et Yann, grâce aux outils numériques. Après avoir écouté mes deux précédents collègues ouvrant des perspectives stimulantes vers une meilleure maîtrise de l'écriture par nos élèves, je me tourne vers Christelle Delas et Leila Enouski qui, elles, veulent dresser à l'occasion de notre 20e émission une sorte de bilan dans la rubrique « Ils témoignent ». En effet, en se fondant sur les paroles mêmes de leurs anciens élèves, elles ont voulu montrer que la web radio n'était pas uniquement, comme dans notre projet des souris et des lettres, un instrument de formation animé par des professeurs à destination d'autres professeurs, mais que ce pouvait être aussi un outil pédagogique formidable pour faire travailler les élèves. Leila et Christelle, vous avez toutes deux mené des projets de web radio avec vos classes. Pourriez-vous, en quelques mots, nous raconter vos aventures respectives ?
Oui Serge, il s'agit d'un projet que j'ai mené il y a 2 ans avec plusieurs partenaires. Ma collègue documentaliste, Céline Meunier, un collègue de SECPA, Benjamin Brulant, une collègue d'une école du secteur de recrutement du collège dans lequel j'enseigne, Valérie Marot-Viguier et Stanley Baumet du Canopé 41 qui a apporté son aide logistique et technique. Ce projet est né d'une envie commune de proposer un travail de liaison interdegré et d'intégrer une classe de 5e SECPA sur l'année entière. Donc nous avons commencé par visiter une station de radio locale, plus FM, et cette visite, préparée en amont par l'analyse d'un flash info en classe, a permis donc aux 3 niveaux de se rencontrer en octobre et de découvrir un studio de radio, de discuter avec un journaliste, Denis Day. Puis, nous avons préparé une émission enregistrée commune, enrichie par chaque classe. Et enfin, à la fin de l'année, le jour où les 3e passaient le brevet, les élèves de l'école primaire sont revenus et nous avons fait une autre émission de radio, mais cette fois-ci en direct, avec des invités. L'après-midi, un journaliste professionnel, Stéphane Frachet, est venu répondre à leurs questions. Et j'aimerais en fait d'ailleurs vous faire entendre les réactions de quelques élèves que j'avais à ce moment-là, donc de la classe, dont j'ai recueilli les souvenirs.
Alors, vous êtes maintenant en 4e, mais vous avez travaillé en 6e sur un projet de web radio. Quels souvenirs en gardez-vous ?
Même ça fait déjà 2 ans, j'en garde de bons souvenirs parce que ça nous a appris à savoir comment ça se passait derrière une radio.
Et toi, Fanny ?
J'en garde de très bons souvenirs parce qu'on a eu l'opportunité, on a eu la chance de faire un projet comme celui-ci.
Oui. Et toi, Raphaël ?
Moi, je me rappelle que j'étais stressée, je ne savais pas comment ça allait se passer, mais ça s'est bien déroulé, on s'était bien amusé.
Et toi, Clément ?
Je me souviens qu'une fois par semaine, on allait au CDI et on travaillait en groupe. Et on était resté un jour de plus à l'école, donc il y avait les troisièmes qui préparaient leur brevet.
C'est un souvenir douloureux, ça, le fait d'être resté un jour de plus. Non, ça va ?
Non, le repas, ça va.
Ah, le repas était bon, alors ça va. Et toi, Tom ?
J'en garde des bons souvenirs, que c'était vraiment bien de participer à une émission de radio, parce que nous avons découvert toute la préparation et tout ce qui se passait dans les coulisses d'une émission.
D'accord, très bien.
De beaux souvenirs, en effet. Et toi, Leïla, as-tu vécu la même chose ?
Oui, tout à fait, Serge. La seule différence, c'est que je mène un projet web radio depuis 4 ans avec une classe de 3e du collège Louis Armand, en collaboration avec notre documentaliste Marine Bouchard et deux assistants pédagogiques. Je précise que je travaille dans un établissement classé REP+, et qui accueille évidemment un nombre important d'élèves qui ont du mal à rentrer dans les activités d'expression écrite et orale. Et malheureusement, certains préfèrent ne rien faire plutôt que de prendre le risque d'être en échec devant les autres. D'où l'importance de recourir à la pédagogie de projet. L'intérêt de la web radio est que non seulement elle offre un espace de parole et de réflexion aux élèves, mais elle permet aussi de travailler des notions du programme tout en développant un ensemble de compétences dans une situation pédagogique motivante, mais surtout concrète. Alors au début, je ne connaissais absolument rien à la web radio. C'est pour cela que je me suis mise en quête d'un partenariat. Et une radio locale a accepté ma proposition, c'est la radio Grand Ciel. Cette radio collabore à ce projet depuis le début, en mettant à notre disposition chaque semaine une animatrice et directrice d'antenne, Émilie Glory, qui intervient aussi bien pour le travail d'écriture journalistique que pour le travail d'oralisation. Et les enregistrements des émissions se font dans les studios de la radio. Cette animatrice gère tout l'aspect technique, c'est-à-dire l'enregistrement, le montage, etc. Et moi, ça me permet de me concentrer uniquement sur les compétences disciplinaires. Concrètement, c'est un projet mené sur l'année à raison d'une heure par semaine au CDI, dans le cadre du cours de français. Les élèves prennent la parole puisqu'ils réalisent 2 à 3 émissions dans l'année sur des sujets d'actualité qui les touchent et qu'ils choisissent. Nous commençons toujours par une réunion de rédaction, puis un vote a lieu et les élèves se positionnent sur les sujets retenus. Il y a ensuite la phase de recherche et enfin la partie rédaction, où ils doivent produire un texte argumentatif structuré avec introduction, développement, conclusion, etc. Donc ça permet de travailler le sujet de réflexion. Et avant chaque enregistrement, Émilie organise un casting pour choisir l'animateur principal.
Bien, prenons du recul maintenant. Quel bilan tirez-vous toutes deux de ces expériences ?
Alors avant de vous donner mon point de vue, j'aimerais d'abord vous faire entendre ce qu'en disent les élèves.
Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce travail ?
Bah, j'ai beaucoup aimé le travail de groupe sur lequel on devait travailler. Enfin, nous, c'était les Jeux Olympiques. On a rencontré des journalistes, on a visité une radio locale. Enfin, c'était bien.
Très bien. Et toi, Raphaël ?
Moi, j'ai bien aimé qu'on ait la plus FM parce qu'on a assisté à une interview en direct. Et j'aimais bien aussi qu'on travaillait au CDI, même si c'était un peu bazar dans notre groupe.
Ah bon, d'accord. Et toi, Clément ?
Bah, ce qui m'a plu, c'est de passer à la radio. Je trouvais ça incroyable.
Le fait d'avoir un studio de radio en vrai, c'est ça ? Ouais.
Et toi ? Moi, tout m'a plu dans ce travail, surtout le fait de tout apprendre sur une émission de radio et tout ça.
Mm-hmm. Et toi, Victoria ?
Moi, ce qui m'a plu, c'était de travailler en groupe sur un thème en commun. Donc, nous, par exemple, c'était la chorale. Du coup, on avait dû enregistrer un morceau du spectacle. Et voilà.
Ouais, vous avez dû faire un reportage et vous déplacer et enregistrer vous-même, en fait. Donc, c'est ça aussi qui t'a plu. Le fait d'avoir été actif dans la réalisation du reportage. Très bien. Bref, donc je trouve que cette expérience a été riche à plus d'un titre. Les élèves ont acquis de nombreuses compétences, bien sûr des compétences d'oral, puisqu'ils ont appris à parler à la fois aux personnes rencontrées, lors d'interviews, ou lors de nos rencontres, mais également dans un appareil d'enregistrement ou un micro. Et puis, ils ont développé des qualités d'écriture en apprenant à rédiger des questions ou leurs articles. Ils ont dû enrichir leurs compétences sociales pour négocier à l'intérieur du groupe. Vous l'avez entendu, pour Raphaël, ça a été un peu compliqué. Pour travailler avec des plus jeunes ou des élèves plus en difficulté. Et puis, ils se sont fait connaître dans l'établissement en invitant certains professeurs à participer à l'émission ou en enregistrant, par exemple, la remise des prix du concours Kangourou. Et enfin, ils ont eu le sentiment d'être pris très au sérieux quand ils ont vu le studio d'enregistrement mobile du Canopé. D'ailleurs, nous les remercions encore aujourd'hui, puisque nous en profitons également, et ont su que leur émission serait accessible sur le site de la Web Radio Académique.
Alors, tout comme Christelle, si je reconduis ce projet depuis plusieurs années, c'est parce que j'ai pu constater qu'il apporte vraiment une réelle plus-value à l'enseignement du français et permet d'éduquer à la citoyenneté. Car comme l'a si bien mis en avant Christelle, la web radio développe à la fois les compétences écrites et orales des élèves, mais c'est aussi un outil qui favorise la relation avec les autres et un regard critique sur notre société. C'est un projet qui plaît beaucoup aux élèves, et étant donné qu'ils parlent de sujets qui les concernent. De plus, ils utilisent le numérique et ils sont responsabilisés puisqu'ils gèrent leur sujet de A à Z. Ce sont eux qui doivent prendre contact pour les interviews, ce sont eux qui font les micro-trottoirs dans la rue, etc. Et le fait de faire plusieurs émissions les aide à mettre en place des automatismes et à s'auto-évaluer. En outre, leur travail est valorisé car les émissions sont accessibles en ligne sur un blog dédié au projet, le blog LA Radio, et elles sont également diffusées sur les ondes d'une vraie radio, la radio locale avec laquelle nous avons mis en place le partenariat. Bref, la web radio permet à la fois de créer des situations pédagogiques authentiques, mais également de faire rayonner le travail des élèves au-delà du collège. D'ailleurs, les lycées du secteur viennent également de créer leur propre web radio au sein de leurs établissements.
Eh bien, mesdames, félicitations. Vos témoignages ainsi que celui de vos élèves soulignent bien l'intérêt de faire vivre une web radio au sein d'un établissement scolaire. En d'autres termes, ouvrons le micro à nos élèves.
Les souris et des lettres.
Depuis notre toute première émission, Des souris et des lettres, force est de constater qu'une rubrique s'est toujours imposée à nous. Celle intitulée « Il n'enseigne plus comme avant ». En effet, nous avons tenté à chaque fois d'accompagner les évolutions de notre métier de professeur de lettres, en particulier celles liées aux nouvelles potentialités offertes par l'usage des outils numériques. Dans ce cadre, Olivier Delaby a choisi aujourd'hui d'aborder une pratique récente qui, peu à peu, se diffuse dans nos établissements, la classe inversée. Mais Olivier, que doit-on mettre derrière cette expression ?
Alors en fait, le principe général est de modifier les conditions d'accès au savoir. Il ne s'agit pas de transmettre une notion pour elle-même, mais de l'intégrer à la découverte d'un concept. Ainsi, le travail devient une production collective, pour la réalisation de laquelle certaines connaissances sont nécessaires. Celles-ci seront abordées hors la classe, pour être ensuite confrontées en cours. L'une des visées essentielles d'une telle organisation et d'augmenter la motivation des élèves qui s'impliquent dans des projets et dans le groupe. Chacun a un ou plusieurs rôles et voit les connaissances comme des moyens de faire aboutir leur bien commun.
Cela se limite donc à une organisation différente des temps de classe et l'esprit critique, où se situe-t-il là-dedans ?
Non, c'est plus que ça. La classe inversée place le savoir comme outil dans une dynamique de quête. Les tâches menées en cours tendent à privilégier la collaboration, ce qui suppose des négociations entre les pairs, des conflits socio-cognitifs qui permettent aux élèves d'exprimer et discuter leurs représentations. C'est le cœur d'un véritable travail sur l'esprit critique. Les élèves ont alors, au fur et à mesure de cette quête, besoin de savoir. Ceux-ci seront donc recherchés et construits autant que possible par eux. La place de l'enseignant se retrouve modifiée. Une partie des notions est découverte par les enfants hors la classe à l'aide d'une vidéo par exemple, mais pas nécessairement, pour les rendre familiers avant d'en débattre en classe et d'élaborer leur représentation efficacement.
Et si je comprends bien, la collaboration semble donc au centre de cette pratique nouvelle. Mais comment fonctionne-t-elle réellement en classe de français ? Comment, dans ce contexte innovant, parviens-tu, Olivier, à éveiller l'esprit critique des collégiens qui se sont confiés au quotidien ?
Concrètement, j'utilise l'objectif de séquence comme un leitmotiv. Il est donné dès le début aux élèves, en même temps que la consigne de ce que j'appelle le projet de fin de séquence. Des directives brèves, une tâche complexe en somme, à la réalisation très libre dans sa forme. Je vais vers des devoirs de groupe étendu, c'est-à-dire une classe entière, à très étendu, un niveau entier. Ainsi, les élèves doivent à la fois faire des recherches sur le sujet, questionner entre eux les sources et leur pertinence, se répartir le travail, s'auto-évaluer et s'évaluer entre pairs. Un tel travail pour chaque séquence est appuyé en grande partie sur les outils numériques. Utilisation de forums pour des discussions sur les œuvres intégrales, utilisation de pads pour une écriture collaborative efficace et organisée, utilisation de tablettes en classe pour des recherches documentaires par exemple. C'est donc une quête qui s'étend sur la durée de la séquence que mènent les élèves, aiguisant à chaque étape de celle-ci leur esprit critique.
D'après ce que j'entends, la classe inversée semble donc une solution particulièrement intéressante. Mais va-t-elle devenir le cadre unique de nos cours ?
Non, car ce n'est pas un système figé, c'est un dispositif ouvert permettant à l'enseignant de déporter, quand cela s'avère nécessaire, une partie du travail des élèves en dehors du cours, afin de réserver les temps en présentiel pour l'échange, la collaboration, l'appropriation des savoirs, c'est-à-dire pour développer l'esprit critique des élèves. Aucun modèle dogmatique donc, la classe inversée n'est pas une question de capsule vidéo, c'est une modification des conditions du cours, du cadre des réflexions. Voilà pour moi une évolution stimulante pour tous, élèves comme professeurs.
Merci Olivier. Une autre pratique récente s'impose peu à peu dans nos classes de lycée, celle des enseignements d'exploration. Ceux-ci ont, comme la classe inversée, vocation à encourager l'initiative, l'autonomie de nos élèves. Philippe Godivou a choisi de nous présenter lycéenne. Mais que se cache-t-il derrière ces trois lettres ?
Derrière le sigle lycéenne, nous trouvons un enseignement d'exploration intitulé « Informatique et création numérique ».
Je vois bien ici l'intérêt du numérique pour la création, mais j'ai du mal à envisager le lien avec l'esprit critique et même avec notre discipline.
En fait, Serge, celui-ci est double. Tout d'abord, dans la réflexion sur le numérique, son omniprésence. Que devient l'homme dans une société numérique ? Quel impact a-t-il sur nos existences, etc. On retrouve là d'ailleurs un thème mentionné dans les programmes de français, la question de l'homme dans les genres de l'argumentation du XVIe à nos jours. Et cela nous amène au deuxième aspect, prendre conscience des modifications qu'induisent les outils numériques sur nos pratiques culturelles, lecture, écriture. Comment ils nous imposent à la fois une manière de penser et une manière de s'exprimer, ce qu'Emmanuel Souchier et Yves Jeanneret abordent dans leurs écrits à travers la notion d'architecte.
Donc d'après toi, cet enseignement peut-il s'appuyer sur des compétences acquises au collège ?
Alors je crois que les premiers préacquis à interroger sont liés à la recherche documentaire. Se demander comment devenir un lecteur autonome, avisé, je dirais même lucide, au sein d'un contenu vaste, structuré à l'aide d'un hypertexte, et surtout exploré avec un outil très modélisant, le moteur de recherche. Développer aussi des stratégies pour chercher, extraire, traiter l'information à l'occasion de travaux effectués en lettres. Objectif cité à nouveau dans les programmes, connaître la nature et le fonctionnement des médias numériques et les règles qui en régissent l'usage. On pourrait également interroger des objets culturels comme les encyclopédies pour mesurer leur évolution et comprendre leur histoire.
De l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert à Wikipédia, on parvient à conjuguer permanence et innovation, en quelque sorte.
Exactement. L'esprit critique, c'est aussi poser la question du degré de confiance à accorder aux données proposées par le web. À travers des problématiques, des œuvres contemporaines, le professeur de lettres développe avec ses élèves une autonomie de réflexion et les aide à analyser la présentation, l'écriture des informations comme indice de fiabilité. À quoi reconnaît-on une opinion valide ? Quelle démarche pour nous en assurer ? Etc.
Des lumières aux théories du complot.
C'est bien cela. Mais il y a également des considérations sur les mutations du texte et sur son statut en droite ligne avec les travaux de Roger Chartier. Qu'est-ce qu'être auteur au XXIe siècle ? Un texte est-il exploitable par tous, tout le temps ? Quels éléments fondent son identité ? Une fois encore, à travers le code, les pratiques d'écriture numérique, c'est avec un esprit critique que l'on analyse un objet culturel séculaire.
On pourrait même questionner les usages personnels des élèves, la production et le partage de contenu.
Sans aucun doute, l'ICN ne se limite pas au code informatique. Il interroge un artefact, une société, sous l'angle de l'humanisme numérique. Il peut aussi, à l'instar de la classe inversée dont tu parlais précédemment, offrir l'opportunité de travaux collaboratifs. Les professeurs de lettres ont donc tout à gagner à investir cet enseignement afin de stimuler l'esprit critique de nos lycéens et leur montrer que la littérature est vivante, intimement liée aux évolutions sociétales qui leur demandent plus que jamais beaucoup de discernement.
Eh bien, avez-vous remarqué comment le débat s'est très rapidement engagé entre mes deux interlocuteurs ? Voilà une image probante du rôle que peut jouer l'enseignement d'ICN dans l'éveil de l'esprit critique.
Les souris et les lettres.
Chères auditrices et auditeurs des souris et des lettres, vous commencez à me connaître et à savoir que la rubrique les ressources du jour est ma petite préférée. Celle qui suscite toujours mon enthousiasme en proposant des sites ou des applications qui stimulent à chaque fois mon imagination, mais surtout votre créativité pédagogique. Et à ce que je vois, Angélique Voisin partage mon enthousiasme. Oui, oui, Angélique, je te laisse le micro, mais n'oublie pas de dire merci.
Ah, grand merci Serge, et surtout un énorme merci également à France TV Éducation pour nous proposer à nous enseignants et à nos élèves bien sûr les dossiers en sortant de l'école. Vraiment j'adore. Alors après les dossiers consacrés à Paul Éluard, Robert Desnos, Jacques Prévert, France TV s'est attaqué à Guillaume Apollinaire. Et vraiment pour, je dois le dire, mon plus grand bonheur. Alors tout d'abord en sortant de l'école, mais qu'est-ce que c'est en sortant de l'école? C'est joli comme titre, ça comme le son et le goût de la sonnerie de cours. C'est un peu ça pour moi. C'est une magnifique collection de courts-métrages qui permettent de visiter ou de revisiter de grands poèmes, mais pas de façon traditionnelle. On s'amuse, on joue avec les univers. À chaque année, au mois de mars, pendant le printemps des poètes, une collection paraît. Alors, la saison Prévert s'appelait « En sortant de l'école ». La saison Desnos s'appelait « Salsifie du Bengale et autres poèmes ». La saison Apollinaire s'intitule « Apollinaire », c'est quand même beaucoup plus simple. Alors rassurez-vous, vous trouverez tous les liens pour chaque poète sur notre page web. Qui réalise ces magnifiques courts-métrages? Eh bien, ce sont de jeunes réalisateurs, tout juste sortis des écoles d'animation françaises, et ils revisitent ces œuvres avec une scrupuleuse fantaisie. Alors j'évoquais Guillaume Apollinaire que j'adore. J'ai été très étonnée, mais vraiment ravie de l'adaptation du Pont Mirabeau, qui débute avec un graphisme très épuré et surprenant, ou encore la version de Saltimbanque. Et à ces poèmes connus et souvent étudiés, on trouve également des poèmes moins connus, mais vraiment magnifiquement mis en scène. Je me souviens de mon enfance, par exemple, où la dimension autobiographique et fantaisiste suit les métamorphoses d'une feuille de papier pliée et d'un verre d'eau. Ou encore l'adaptation très émouvante du poème « Le coin », dans lequel le malaise social est subtilement évoqué en esquisse aquarelle et reste vraiment toujours d'actualité, malheureusement. De très belles émotions dans « Fusée signal » ou « Un oiseau chante » qui rappellent les souvenirs du guerre du poète et l'inévitable modernité de cette tragédie. Alors pourquoi on accroche sur ces courts-métrages? Parce que, comme je l'ai dit, le trait est moderne, étonnant. Les techniques d'animation variées et la bande-son, c'est un pur moment de bonheur. Alors le plaisir de voir danser les culottes, les chaussettes, les voitures, les avions, les girouettes sur un rythme jazzy et entraînant d'envie les cœurs, qui rappelle tout à fait Tati. Et j'ai une mention spéciale pour le poème « Automne », parce qu'on se trouve totalement accroché au vers de ce très bref poème pendant 3 minutes. 3 minutes pendant lesquelles l'automne se transforme en créature onirique, digne de Miyazaki. Et penser à Miyazaki en regardant une adaptation d'Apollinaire, ben ça dynamise et ça réveille notre regard sur l'œuvre. Avoir donc seul pour se faire plaisir, hein, c'est ce que je fais, mais aussi avec sa classe, c'est ce que je fais aussi, pour comprendre ce qu'est une lecture personnelle et une interprétation.
Alors cette créativité, pour ma part, que décrit Angélique à propos de cette ressource consacrée à Apollinaire, j'ai eu également le plaisir de la rencontrer en ouvrant il y a quelques jours la page d'accueil de notre site académique. Pour ceux qui ont manqué cela, je vais vous en faire une brève description. Imaginez Descartes me fixant derrière des lunettes au vert teinté de violet et prononçant la phrase suivante. Et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie. Vous comprenez alors que cette inventivité visuelle est mise en œuvre pour valoriser l'esprit critique dont Descartes est un illustre représentant, mais aussi pour présenter le prix académique de l'esprit critique, dont c'est la première édition. Serge, toi qui remplaces aujourd'hui notre amie et collègue Marie Pourriot, à qui nous pensons tous très fort, tu as été également frappé, comme moi, par cet affichage et par son contenu. Mais peux-tu nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît?
Oui, Philippe. Il s'agit en fait d'un concours qui part du constat que dans notre société surinformée qui privilégie l'instantané, l'esprit critique est d'autant plus nécessaire qu'il permet de conserver de la lucidité par rapport aux événements rapportés. D'ailleurs, les programmes de nombreuses disciplines insistent sur cette nécessaire compétence en proposant une éducation aux médias et aux outils du numérique. Et c'est précisément une production numérique illustrant cette valeur qu'est l'esprit critique que doivent concevoir les groupes d'élèves inscrits au prix académique. Tu vois qu'à travers ceci, nous sommes parfaitement en phase avec le thème de notre émission.
Justement, ce n'est pas toujours simple pour un adulte de s'armer d'esprit critique face à la déferlante d'images, d'informations qui occupent notre monde médiatique. Alors pour les élèves...
Oui, mais c'est là qu'intervient la très bonne idée de la page d'accueil du prix académique, celle de fournir un lien vers la ressource qui doit aider au mieux à aborder cette difficulté. Et cette ressource, c'est celle à laquelle nous devrions penser systématiquement et qu'en fait nous négligeons trop souvent. Je veux parler d'EduSchool. Sous le titre « Former l'esprit critique des élèves », une page EduSchool révisée en décembre 2016 se présente comme un article clairement structuré, ouvrant sur une quantité raisonnable de liens complémentaires, mais surtout enrichi de deux entretiens proposés en vidéo. Le premier donne la parole à Monsieur Jérôme Grondeux, qui est inspecteur général d'histoire et de géographie, qui montre clairement que l'esprit critique est à la fois une attitude intellectuelle et un certain nombre de pratiques favorisant la lucidité de chacun. Son propos est synthétisé de façon excellente par un schéma circulaire qui mériterait d'être affiché dans toutes les classes. Je suis particulièrement admiratif face à cet exposé, car M. Grondeux est parvenu à souligner la pertinence et l'efficacité pour notre 21e siècle de la pensée méthodique de Descartes. Et parmi les quatre règles que se fixe le philosophe, Madame Sophie Mazet, dans la seconde vidéo, choisit principalement celle qui consiste, je cite Descartes lui-même, « à conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusque à la connaissance des plus composés ». Ainsi, cette enseignante d'anglais nous expose comment elle a construit, avec ses propres élèves, ce qu'elle nomme les 9 outils d'autodéfense intellectuelle. Oui, vraiment, chères auditrices et chers auditeurs, je vous recommande cette ressource EduSchool, qui me semble à la fois accessible par son esprit de synthèse et enrichissante aussi bien pour les adultes, assumant leur citoyenneté, que pour les enseignants et leurs élèves dans le cadre scolaire. Événement majeur des célébrations des 20 ans du lycée Charles Péguy d'Orléans, notre 20e émission des souris et des lettres s'achève sur cette dernière virgule sonore, imaginée par Bruno Régnier, professeur de musique, accompagné de ses élèves du collège Robert Goupil de Beaugency. Je remercie mes collègues venus de toute l'Académie d'Orléans-Tours, Philippe, Christelle, Léla, Olivier, Yann et Angélique, pour leur adhésion sans réserve à notre web radio. Et bien sûr, vous qui nous écoutez, je vous remercie également pour l'attention que vous nous accordez depuis toutes ces années en nous suivant par-delà toute frontière géographique grâce à notre diffusion sur Internet. Je formule même le vœu, à l'occasion de cette 20e émission, de vous retrouver toujours plus fidèles et plus nombreux. Vous savez d'ailleurs que le site de notre web radio académique vous offre des services appréciables, comme la possibilité d'écouter notre programme en entier ou par rubrique. Vous pouvez aussi enrichir votre information grâce aux liens consignés et aux bonus concoctés par toute notre équipe. Vous pouvez enfin retrouver l'actualité de notre émission sur notre page Facebook, animée depuis ce début d'année scolaire par Marie Rousseau. Bon, eh bien... il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bien sûr, à très bientôt sur notre web radio.